anything you heard tonight, or if you would like to participate or support news produced by and for the Montreal community, please contact CKUT's Community News Department.
Bonsoir et bienvenue à Café, votre émission d'art et culture sur les ondes de CKUT. Café, c'est une émission qui roule depuis 1996 pour vous offrir à chaque semaine une heure de contenu culturel qui a attiré notre attention. Au programme ce soir, Esther nous partage son appréciation du nouvel album de Rêve Sonore et du dernier album de Pierre-Luc Lecourt. Marc-Antoine nous présente une exposition de Jean-Michel Othoniel. Et puis moi, Ève Laurence, je vous invite dans l'univers de l'autrice Naomi Fontaine. Tout ça agrémenté de nos sélections musicales. Bonne écoute!
Bonjour chers auditeurs et auditrices, Marc-Antoine Micro, je suis très content de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une exposition qui m'a vraiment mis à l'envers. Donc malgré les nouvelles restrictions, j'ai quand même flirté avec l'audace de me rendre dans les bas-fonds de Montréal pour faire une activité pratiquement profane par les temps qui courent, c'est-à-dire voir une exposition. Donc l'exposition de Jean-Michel Othoniel à l'Arsenal est franchement impressionnante. Je ne sais pas si j'ai été charmé à ce point-là parce que je ne vais plus au musée depuis un an ou vraiment parce que j'ai été dérouté par la sensibilité de l'homme derrière son œuvre, mais franchement, je vous le conseille fortement. Premièrement, pour ceux et celles qui ne sont jamais allés, il faut absolument aller à l'Arsenal. Moi qui aime les trucs architecturaux, qui a une énorme sensibilité pour le bâtiment, le construit. Je vous le dis tout de suite, là, juste aller à l'Arsenal en soi, c'est gigantesque. C'est des anciens hangars à bateaux convertis en musée. Je peux pas m'empêcher de trouver n'importe quelle exposition absolument magistrale dans un lieu aussi impressionnant. T'sais, ultimement, je vous dirais qu'on pourrait probablement mettre un tricycle au milieu de l'immensité de la salle, puis ce serait artistiquement absolument intéressant. Sauf que quand on voit le travail de Jean-Michel Othoniel, qui est un sculpteur, quand on voit son travail illuminé au centre de la pièce sombre, on est vraiment, vraiment renversé. Nœud sauvage, ça c'est le nom de l'exposition, et je cite, là, selon le site de l'Arsenal, une interprétation mathématique issue de la topologie algébrique afin de considérer 16 cultures en verre miroité qui prennent la forme de nœuds borroméens. Bon, je vous dis tout de suite, là, dit comme ça, c'est difficile à s'imaginer la chose, mais croyez-moi, là, une fois devant, on comprend en fait encore moins le travail de précision, de recherche du mouvement et de recherche matériaux de l'artiste tellement c'est bien exécuté. C'est vraiment déroutant. Nœud sauvage, ça fait directement référence au travail d'un mathématicien mexicain qui s'appelle Aubin Arroyo, qui a porté nombreuses de ses recherches qui ont porté sur les nœuds sauvages et la théorie des reflets. Puis, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les nœuds sauvages ou la théorie des reflets, je vous invite à vous inscrire à la Polytechnique ou encore en mathématiques et à l'UQAM. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est une théorie mathématique du nœud qui révèle l'existence d'une multitude de nœuds possibles et dont certains sont ce qu'on appellerait des nœuds sauvages qui ont un degré de complexité infini. C'est à partir de ces travaux mathématiques-là que Jean-Michel Othoniel a fait une exploration en sculpture. Jean-Michel Othoniel, c'est un artiste plasticien renommé. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la matière comme pas un. C'est pas un artiste underground, je vous le dis tout de suite, mais son travail mérite d'être vu. Ce gars-là maîtrise probablement la matière aussi bien que vous attachez ce beau soulier, donc je vous dirais en général relativement très très bien. ces sculptures-là, elles sont magnifiques. Puis ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on sent vraiment l'aboutissement de dizaines d'années de maîtrise d'un art. Puis on dépasse vraiment le stade d'exploration. C'est quand même un thème récurrent, peut-être des dernières expositions que j'ai vues, encore une fois, il y a un certain moment, mais on dépasse l'exploration, la tentative de recherche, on rentre vraiment dans l'univers de la maîtrise, puis ça se sent du début à la fin. Quand on regarde les sculptures, on a affaire à un chef-d'œuvre ou un grand maître, au travail d'un grand maître. Mais je dirais que ce qui m'a le plus touché, c'est l'homme en lui-même derrière l'œuvre. Puis c'est vraiment rafraîchissant, je dirais, d'être en contact avec une œuvre humble, puis d'une humilité comme l'artiste fait preuve. Puis là-dessus, je vous invite fortement à écouter le documentaire de 50 minutes, qui est aussi dans la salle, un peu en recul, qui en fait permet encore plus de faire apprécier l'œuvre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en général, les petites vidéos dans les expositions, ça me tanne relativement rapidement, puis je ne les regarde pas tous. Prenez le temps de vous asseoir et de regarder la démarche artistique de cet homme-là. C'est en soi, je dirais, la partie la plus intéressante de l'exposition, où vraiment, on rentre en relation, en contact avec un artiste qui n'a aucune prétention, qui n'est pas prétentieux, qui fait un travail avec une grande humilité et qui offre des sculptures d'une grande humilité et qui n'a rien d'autre finalement que le beau comme une raison valable de faire de l'art. Donc, j'ai aucune dent contre l'art engagé ou l'art exploratoire, je pense que c'est très bien, mais Jean-Michel Toniel, il nous amène vers une émotion, je dirais, plus pure. Le désir de faire les choses peut-être seulement parce qu'elles sont harmonieuses ou belles, comme si c'était une grande célébration de l'existence, sans essayer d'y donner un sens un peu galvaudé, comme des fois on peut lire sur des petits cartels un peu drabes de certaines expositions. Franchement, prenez le temps d'y aller, prenez le temps de vous asseoir puis de vous imprégner de ces sculptures. Vous ne le regretterez pas. Je vous le conseille plus que fortement. Donc, c'est à l'Arsenal. Ça s'appelle « Nœud sauvage » de Jean-Michel Otoniel. Et je le répète, prenez le temps non seulement de regarder les sculptures, mais aussi de regarder le vidéo. Alors voilà, je vous laisse en musique avec un new release de KMRU. Ils vont sortir un album tout prochainement, en mai, je pense que c'est le 14 mai 2021. Je vous laisse en grande exclusivité avec la chanson OT de l'album Log. À la semaine prochaine.
L'épidémie mondiale de la COVID-19 a affecté les vies de chacun de différentes manières. Elle a également attiré notre attention sur l'intensification du racisme systémique et de la xénophobie sélective envers nos amis racisés dans notre société canadienne. Il est compréhensible que chacun d'entre nous se sente anxieux face à cette maladie dangereuse. Cependant, ce sentiment d'angoisse ne nous donne pas le droit de commettre des crimes de haine et de discriminer nos amis asiatiques, noirs, autochtones et autres personnes racisées. Il n'est pas acceptable d'associer la maladie COVID-19 aux Asiatiques, en particulier à ceux d'origine chinoise. Il n'est pas acceptable de commettre des abus physiques et psychologiques à l'égard des personnes racisées. Il n'est pas acceptable de vandaliser des entreprises appartenant à des Asiatiques et à d'autres marginaux. Nous devons arrêter de normaliser et cesser d'accepter les comportements racistes et les discours de haine à l'endroit de toute communauté racisée. Au contraire, pendant cette crise d'épidémie mondiale, nous devons ensemble nous éduquer et comprendre les concepts de race, de racisme systémique et de la justice raciale au Canada et ailleurs. Souvenons-nous, malgré qui et où nous sommes tous humains. Nous devons apprendre à nous tenir ensemble en tant que citoyens du monde pour une communauté plus saine, plus sûre et plus heureuse.
Thank you.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Ici Esther Brodage au microphone. Vous venez d'entendre deux superbes pièces. Oui, on vous gâte sur Café. Deux uniques pièces en exclusivité qui s'intitulent Spyrodon et l'autre pièce s'intitule Ergen, tirée de l'album Crépuscule de Rêve Sonore. Rêve Sonore, bien, c'est une série dont les artistes sont Stéphane Christophe et Nick Schofield. Ils créent ensemble de la musique ambiante, comme vous pouvez constater. C'est une musique qui flotte, une musique à la fois impressionniste, hein, sombre, pour ne pas dire ténébreuse. Beaucoup de mélodies, mais aussi de sous-couches avec des field recordings et d'autres instruments. Donc, je vais vous nommer les musiciens, les collaborateurs. Donc, au piano, Stéphane Christophe, Nick Schofield est le producer. Au violon, Harry Shaw, saxophoniste, Devin Braja-Wallman, très bon saxophoniste, comme vous pouvez le constater, beaucoup de textures, divers types de sons, beaucoup d'exploration. Au field recording, Nick Klupfer, désolé pour la prononciation. Au synthétiseur, Nick Schofield, désolé encore pour la prononciation. Et mixé par Adwan Moonmay à l'Hôtel To Tango Studio. C'est un album qui sortira le 21 avril prochain, très bientôt. Vous pouvez accéder à l'album via Bandcamp. Faites une recherche, Rêve Sonore, Bandcamp, album Crépuscule. Donc, c'est un type de musique très, très atmosphérique, comme vous pouvez le constater, qui relaxe, qui fait du bien, quoi. Et on a tous besoin de musique douce et qui nous détend, n'est-ce pas, à quelque part, dans ces temps un peu difficiles. Donc, voilà. Bien, je vous souhaite un très bon vendredi du 16 avril. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, ici Eve Laurence au micro pour Café. On écoute la douce musique de Paradis Artificiel, un trio formé d'Odile Myrtil, d'Auriel Ové, aussi connu sous le nom d'artiste Ouri, et de Victor Bongiovanni. Je vous invite à aller écouter cet excellent album d'ambiance alternatif et expérimental. Vous allez voir, ça attendrit l'âme. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'une autrice que j'ai découverte dans les dernières semaines et dont je vous encourage sincèrement la lecture si ce n'est pas déjà fait. Elle s'appelle Naomi Fontaine. Elle est née à Ouachat, une communauté inoue de la Côte-Nord. Elle a publié en 2011 Kwessipan, que la réalisatrice Myriam Véro a porté à l'écran dans un ravissant film sorti en 2019. Elle a publié aussi Makenatish en 2017 et son dernier livre est intitulé Shuni, publié en 2019 chez Mémoire d'Encrier. Shuni, c'est une longue lettre écrite pour son amie Julie. C'est un message fragmenté d'une autochtone à une allochtone. On peut aussi bien lire ce livre-là comme un message plus grand d'une Innu à toute une société, peut-être. Donc, l'intention, elle est personnelle, mais la portée du livre est globale. Parce que Naomi Fontaine partage son point de vue sur de multiples sujets, que ce soit sa communauté, elle remet les pendules à l'heure de nos perceptions sur le colonialisme, sur la réconciliation, sur l'hybridation culturelle, sur la victimisation, sur la résilience et sur la résistance. Donc, je vais vous en lire un extrait pour vous donner un aperçu. La résilience est un mot emprunté à la science physique. Il est utilisé pour nommer la propriété d'un matériau à retrouver sa forme initiale après avoir subi un choc. Maintenant, on l'utilise surtout pour dire la capacité d'un être humain à ne pas se résigner au malheur. J'ai souvent entendu dire que mon peuple était particulièrement résilient. C'est étrange. Ce terme sonne à mon oreille comme une forme de passivité lorsqu'il est utilisé pour nommer la force de survivre à la colonisation sauvage dont ont été victimes les Premières Nations. J'ai connu un élève qui était déjà vieux lorsque je lui ai enseigné. Il avait plus de 40 ans. Il avait quitté sa réserve, Matemikouche Lac-John, depuis un an. À Québec, il s'était rapidement retrouvé sur les bancs d'école, reprenant ses études là où il les avait laissées à la fin du primaire. Les week-ends, il gagnait sa vie en lavant la vaisselle aux Normandins et passait le peu de temps qui lui restait à se promener en autobus dans la grande ville avec sa femme atteinte d'une maladie dégénérative. Il ne parlait pas beaucoup en classe, seulement lorsque le sujet l'interpellait. Et puisque mon cours consistait à étudier la littérature des peuples autochtones, les œuvres d'Anne-Antan Capesh, de Joséphine Bacon, de Jean Sioui, de Thomas King, ce que nous faisions à tâtons, il faut l'avouer, c'est peu à peu qu'il s'est ouvert. Le plus souvent, il me parlait en Innu. J'ai la certitude que c'est la langue qui nous a rapprochés. Il avait de graves soucis financiers. L'allocation étudiante ajoutée au maigre salaire qu'il arrivait à gagner en lavant la vaisselle n'était pas suffisant. Un jour, entre la honte et la colère, il m'a avoué que son patron ne lui payait pas toutes les heures qu'il travaillait. On l'arnaquait ainsi, sans scrupule, et lui n'avait d'autre choix que de continuer à faire ses heures, malgré l'escroquerie, afin de subvenir aux besoins de sa femme. Il aurait eu toutes les raisons du monde de retourner chez lui, là-bas. Il avait un foyer, une famille, des amis. On lui aurait sans doute offert un travail saisonnier, même sans diplôme. Pourquoi se torturait-il à vouloir apprendre des règles de grammaire plus incongrues les unes que les autres? Pourquoi travailler pour un patron malhonnête et choisir de s'expatrier loin de ses proches, là, dans la grande ville où l'individualisme a pris le dessus sur la collectivité? Je l'ignore. La résilience renvoie à un processus naturel. Pourtant, lorsque je songe à mon peuple, ce que je constate avec mes yeux n'a rien de naturel. Ce n'est pas naturel qu'un pauvre peuple décimé, contraint à manger de la misère au petit déjeuner, fasse autant d'enfants. Ce n'est pas naturel qu'un adolescent qui vient de perdre sa mère subitement décide de s'engager réellement dans ses études. Ce n'est pas naturel qu'une personne reste ouverte à une société qui, durant plus d'un siècle, a tout mis en œuvre pour détruire sa culture. Ce n'est pas naturel d'écrire dans une langue coloniale et de l'aimer. Je n'ai pas demandé à mon élève ce qui l'a poussé à quitter sa communauté. Je ne lui ai pas demandé non plus pourquoi il ne voulait pas y retourner. Peut-être avait-il été très malheureux là-bas, et qu'en rien, il ne voulait se résigner. Il voulait plus, même si le plus peut sembler insignifiant aux yeux des autres. Finir son secondaire, se promener sur la rue Saint-Jean, boire un café avec sa femme au Tim Hortons du coin pendant qu'ils peuvent encore le faire. Rien dans ce que j'ai vu chez lui ne ressemble à de la résilience. C'est de l'entêtement, du courage, de la fermeté, de la résistance. Voilà, Chouni, la résistance. J'ai choisi cet extrait parce qu'il illustre assez bien la portée politique du texte, sa forme assez simple, comme vous voyez, mais très profonde. La narration aussi, qui est un peu contée, qui intègre toujours des nouveaux personnages symboliques. C'est aussi un livre qui partage les savoirs sur une conception du monde, sur le temps, sur l'espace. Naomi Fontaine nous dit que le mot « horloge », par exemple, en Inuaimun, ça se traduit par « le compteur de lune ». Naomi Fontaine nous dit « personne ne calcule le temps. Il est impossible d'en gagner ou d'en perdre, d'en manquer ou d'en garder. On ne peut pas le ménayer ou espérer le contrôler. » Elle dit aussi « ici, Chouni, le temps a la forme d'un cercle. Il évolue continuellement. Chacun suit le cercle du déroulement de sa vie. Le cercle est différent du système linéaire de temps dans lequel la vie est une course du point A, la naissance, au point B, la mort. Entre les deux, les études, la carrière, le couple, la maison, la famille, la retraite, dans cet ordre. Ce qu'il y a de rassurant avec le cercle, c'est qu'on peut revenir au même endroit autant de fois qu'on en a besoin. Reprendre le cours de ses études, un travail trop exigeant, une relation brisée, revenir et être persuadé que cette lune-ci sera la bonne. » En trame de fond, j'ai mis la musique originale du film « Quessipan » de Myriam Véro. La musique est magnifiquement composée par Louis-Jean Cormier. Si vous n'avez pas encore vu ce film-là, louez-le immédiatement. C'est un petit bijou adapté très librement du livre du même titre écrit par Naomi Fontaine. Et Naomi Fontaine co-scénarisé le film. Le livre Quessipan est un peu plus lyrique que Chouni. On peut entendre plein de fragments du livre dans le film en voix hors champ qui raconte les dilemmes, les tensions derrière les choix et les aléas de la vie d'une jeune adolescente et de sa meilleure amie qui doivent prendre des décisions, quitter ou non la communauté, développer une relation amoureuse avec un allochtone, vivre le deuil, subir et résister à la violence. C'est un film magnifique, extrêmement touchant sur la solidarité, sur l'amitié et sur la famille également. Je termine cette chronique en musique avec un band que j'aime profondément. Je vous en ai déjà parlé, mais on se tanne pas. Il s'appelle Whoopso, W-H-O-O-P, trait d'union S-Z-O, mais il s'est nouvellement renommé Gitch Sabé, donc G-I-T-C-H-E, espace S-A-B-E, si jamais vous voulez aller explorer ce groupe. C'est un groupe basé à Guelph, en Ontario, avec plusieurs membres de descendance Anishinaabe qui produisent depuis 2009 des albums qui allient sludge, grunge, rock psychédélique, folk, post-rock. Je vous partage Odaman, qui signifie fraise en Anishinaabe, parfois aussi surnommée la baie du cœur, et qui symbolise la connexion, l'émotion et l'amour. Donc c'est une chanson qui est écrite pour le fils d'un des membres afin de lui transmettre des valeurs masculines qui embrassent l'émotion comme force créatrice. Je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine.
Sony Perio Popolo and CKUT present the Rêve Sonore album launch on April 22nd, 2021, live streamed from La Sala Rosa at 8 p.m. The concert features synthesizers by Nick Schofield, piano by Stefan Christoph, and violin by Ari Swan. Their performances have been described as beautiful and sophisticated cinematic ambient scores. The ensemble's new album, Crepuscule, is out by Youngbloods, available on Bandcamp. Tune in April 22nd for an enchanting evening of instrumental music via suoniperiopopolo.org. This is CKUT co-presentation.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Listen to your
KUT Radio, 90.3 FM en Montreal.
¿Vacunas COVID-19 y usted?
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canadá.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del gobierno de Canadá.
Están escuchando 90.3 FM CKUT Listening to Latin America.
Muchas gracias, Carla. You are right. This is 90.3 CKUT. We are back. 2 weeks ago, you haven't heard of us, and now we're back with a team bigger than ever, más grande que nunca. Este creo que es el equipo más grande que hemos tenido en el programa en su historia, desde que empezamos Listening to Latin America hace 3 años y pico con Slaza, Macondo y el Club de los Feos. Here we are. Aquí está el equipo bien grande. Los voy a presentar uno por uno. Por favor, no se van porque tenemos un tema bien bacano para ustedes hoy. Empezando el verano, el temita de hoy son vacaciones en Latinoamérica. Este es el equipo profesional de Slaza que les va a decir de cada país dónde son sus lugares turísticos más favoritos. Les vamos a mostrar por qué los resorts no es la única cosa buena en Latinoamérica. Les tenemos un programa hoy. Empezando con el Copresi, Eric, ¿qué nos cuentas?
Hola, hola a todos. Un gusto estar de vuelta aquí después de 2 semanas.
Eso. La otra Copresi, Jenny, ¿cómo estás?